qu'il y a de bonnes vieilles croyances que d'impitoyables savants, économistes, agronomes, que sais-je, prennent un abominable plaisir à détruire. Je croyais, nous croyons tous, n'est-ce pas, que le cochon fonctionnait comme une affaire avantageuse et prospère, qui vous récompense de votre confiance et vous restitue, au bout de l'an, votre capital, doublé, triplé ou plus. Je l'ai cru, je l'ai même écrit. Dans sa bouillie de farine et de son, on jetait tous les restes du ménage, tous les rebuts, tous les déchets, les fonds de peau, les raclures de marmite, les eaux de vaisselle, les pelures, les trognons. Il goinfrait tout, et voici qu'il nous le rend au centuple. Le splendide alambic a tout distillé, tout transformé en matière vivante, gonflant les chairs, ajoutant chaque jour une couche de graisse à une autre. Ainsi m'exprimais-je avec emphase. J'en rougis aujourd'hui. J'ai honte de mon erreur. Fable que tout cela. Anathème sur le cochon. Ce n'était pas lui qui nous nourrissait. C'était lui qui nous ôtait le pain de la bouche. Il y a longtemps qu'au Danemark, on l'avait compris, on y avait tué 4 cochons sur 5. Tués non pas seulement pour le manger, mais pour que eux ne nous mangent pas. Car le cochon, en fin de compte, pensait-on, ne rend pas ce qu'il engloutit. Toute cette histoire se calcule en calories. Ces rebuts, ces déchets qu'on lui dispensait sans compter, c'était des masses de calories. Il nous en rendait une pincée, le mauvais bougre. Le reste, il le laissait perdre. Il exhalait en fumée, l'évacuait en autre chose, que sais-je. Il n'y a qu'un remède à ce gaspillage. Nous dispenser dans ces dispendieux intermédiaires. Ces rebuts, ces déchets, ces trognons, ces lavures, ces raclures, ces plures, il nous faut les avaler nous-mêmes. Et il nous faut, si je peux dire, mettre nous-mêmes nos calories au chaud, puisque le spectre des jours sans viande est maintenant devenu une réalité et que le cochon s'est envolé. Il paraissait peu fait pour cela, bien que Charles Moncelet l'appela le cher ange. Nous voici donc par la force des choses réduits, plus ou moins, au végétarisme. C'est une très ancienne doctrine. Elle était à l'origine fondée sur le respect de la vie des animaux, sur la métempsychose. Pythagore, en Grèce, Sakyamuni, dans l'Inde, en avait fait une loi fondamentale. À Rome aussi, plus tard que Sénèque, recommandèrent l'abstention de nourritures animales, et des pères de l'Église, comme Saint Grégoire de Nazianze, l'introduisirent dans leurs règles. Ce ne fut pas, cependant, comme certains végétariens le prétendent, le régime de l'humanité primitive. On le sait, par ces résidus culinaires, nommés Kjökenmuddings, trouvés dans des cavernes, et qui contiennent des arêtes de poissons, des os calcinés, parmi lesquels des ossements humains, prouvent que si nous avons dès lors acquis des matières nutritives nouvelles, nous en avons aussi laissé perdre. La doctrine végétarienne n'est pas un bloc unifié. À l'aile droite, les bures s'interdisent toute nourriture animale. Le lait, le fromage, les œufs, même le miel. À l'extrême gauche, des esprits libérés et aventureux vont jusqu'à tolérer le poisson. Au centre se placent les adeptes d'un régime qui admet les aliments d'origine animale obtenus sans causer la mort d'un être vivant. Il n'est pas facile de s'y reconnaître parmi tous ces lacto-végétariens, ovo-lacto-végétariens, ovo-lavo-végétaro-fruitariens et autres bonariens. Je ne songe pas à me risquer dans ce labyrinthe à rééditer les arguments pour ou contre le végétarisme. Les hygiénistes admettent que l'individu sain peut se passer de viande, sans compromettre son équilibre physique, sans se dépouiller d'autre chose que d'un plaisir, d'une satisfaction gourmande, dont l'importance varie selon les sujets. Il est touchant, d'ailleurs, de constater à ce propos le soin qu'apportent les adeptes du régime à donner à leur mixture de noix, d'amandes, d'arachides et de céréales l'aspect des aliments proscrits et jusqu'au nom de côtelettes, beefsteaks, etc. Les doctrines de Pasteur, mal comprises car Pasteur lui-même recommandait de ne toucher qu'avec prudence aux usages alimentaires consacrés par la tradition, déchaînèrent un temps la guerre aux microbes. Les crudistes étaient atterrés. Raoul Ponchon jetait un cri de détresse. Adieu donc aux salades, aux réponses, aux chicons capables d'enrichir en un jour l'Aquéron. Adieu, scarole jaune et toi, verte laitue, que nous croyons inoffensive et qui nous tue. Aujourd'hui, avec la découverte des vitamines, la science a réhabilité les cruautés. Puisque nous voici donc, par la misère des temps, condamnés à un végétarisme relatif, Je voudrais vous donner quelques intéressantes recettes pour apprêter un légume de saison. Mais dans les merveilleux jardins de l'art culinaire, le domaine des légumes se prête peu aux découvertes, ce qui ne veut pas dire que tout s'y passe pour le mieux du monde. Ainsi, comment apprêtez-vous, chers auditeurs et auditrices, les petits pois? Ah, vous n'y ménagez pas l'eau, je le crains. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, il n'en faut point, ou à peine, une cuillerée au plus, chaude. Mettez les petits pois dans du beurre fondu, avec une laitue très grossièrement hachée. C'est elle qui fournira l'humidité nécessaire. Des petits oignons blancs, du persil ou de la charriette, et quelques petits dés de lard de poitrine. Oh, pardon, lard de poitrine, vaut mieux n'en pas parler, vous ne m'avez pas entendu. À feu très doux et laissez cuire 1 heure. Vous voyez, ça n'est pas mal.